les États-Unis ont repris leur frappe contre l'Iran cette nuit, mettant fin à 6 jours d'accalmie relative. Donald Trump s'impatiente.
Les Américains se préparent à quelque chose de bien plus important que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, affirme un haut responsable sécuritaire israélien. Tal presse le pouvoir politique d'autoriser la destruction des tunnels du Hezbollah au sud du Liban et de riposter fortement face au mouvement terroriste chiite.
Et enfin, l'économie belge n'a enregistré aucune croissance au deuxième trimestre. C'est une première depuis le Covid.
Les États-Unis ont repris leur frappe contre l'Iran cette nuit, mettant fin à 6 jours d'accalmie relative.
Le commandement central américain a annoncé avoir mené à bien une vague intensive de frappes contre des dizaines de cibles du corps des gardiens de la révolution islamique en Iran, et ce au lendemain d'une attaque menée par cette force militaire iranienne contre les troupes américaines présentes dans la région à l'aide de missiles balistiques. Un communiqué du CENTCOM précise que les cibles touchées lors de ces frappes comprenaient des centres de commandement, des installations de missiles et de drones, ainsi que d'autres sites militaires, dans le but de réduire davantage les menaces que représentent l'Iran et ses mandataires pour les forces américaines, le transport maritime commercial et les pays du Golfe. Un responsable du CENTCOM estime que l'ampleur des bombardements de la nuit était environ 2 fois supérieure à celle des jours précédents. Des explosions ont été entendues dans les villes de Bushehr et Abu Massa, l'île de Kish et l'île de Kesh, selon la chaîne publique iranienne Press TV. À la Maison Blanche, Donald Trump a affiché sa détermination après avoir promis de frapper très durement l'Iran. Il a laissé entendre qu'une réponse plus importante pourrait suivre, tout en affirmant vouloir maintenir une porte ouverte aux discussions avec Téhéran. Le président américain examinera actuellement un plan élaboré par le commandant du CENTCOM, l'amiral Brad Cooper, qui prévoit une campagne aérienne de 10 à 14 jours dont l'objectif est de porter un coup sévère aux capacités balistiques iraniennes. Le secrétaire de la Défense, Pete Hegseth, soutiendrait cette option, tandis que Donald Trump hésiterait encore entre une offensive de grande ampleur et des frappes plus limitées afin de préserver une éventuelle reprise des négociations.
Et le président américain Donald Trump aurait vivement critiqué les collaborateurs lors d'une réunion la semaine dernière en raison de sa frustration face à ses options militaires contre l'Iran et de son incapacité à conclure un accord pour mettre fin au conflit.
Malgré les manifestations publiques de satisfaction quant au déroulement de la guerre, ni lui ni ses principaux collaborateurs ne sont satisfaits de la situation actuelle, selon un responsable américain à NBC News. Ses collaborateurs ne parviennent pas non plus à s'accorder sur la voie à suivre, le responsable américain ayant déclaré « Après tout ce temps, il n'y a toujours pas d'unité. Le président est exaspéré », a déclaré à NBC News un allié de Donald Trump qui s'est entretenu avec lui ces dernières semaines. « Je ne pense pas qu'il pensait que ce serait aussi difficile d'amener les Iraniens à accepter un accord. Il n'y avait pas de véritable stratégie quant à la durée du processus ni aux mesures à prendre pour parvenir à l'objectif final », ajoute cet allié de Donald Trump. Et puis à Benjamin Netanyahu a lui affirmé hier sur ABC News que Donald Trump maîtrise pleinement la guerre contre l'Iran. Il nie avoir influencé les frappes après leur rencontre à Washington.
« Je n'ai induit personne en erreur. Personne ne dit au président Trump ce qu'il doit faire », a déclaré Benjamin Netanyahu. Il a révélé que lui et le président américain avaient examiné 3 options concernant l'Iran, la négociation d'un accord plus large, le maintien du blocus du détroit d'Hormuz ou une nouvelle opération militaire. « Nous avons analysé ces 3 possibilités de manière ouverte entre amis et alliés, mais c'est sa décision. » Le chef du gouvernement israélien s'est toutefois montré très sceptique quant aux intentions iraniennes dans les négociations. Il ment et trompe constamment, il cherche toujours à gagner du temps. Interrogé sur un éventuel changement de régime en Iran, Benjamin Netanyahu a estimé que la République islamique était plus faible que jamais, tout en refusant d'affirmer que le régime était sur le point de s'effondrer.
Les Américains se préparent à quelque chose de bien plus important que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est ce qu'a affirmé un haut responsable sécuritaire israélien.
D'après les éléments sécuritaires recueillis par Israël, les préparatifs américains témoignent d'une volonté d'apporter une réponse globale et ferme à l'escalade iranienne. Évoquant le front iranien hier, le chef d'état-major de Tzahal, Eyal Zamir, a déclaré « La campagne sur tous les fronts n'est pas terminée. Si nécessaire, nous saurons approfondir nos succès également sur le front iranien. » En visite dans le sud du Liban, le chef d'état-major a également abordé ce front. « Si nécessaire, nous étendrons nos opérations à d'autres secteurs. » secteur. Nous ne nous retirerons pas des zones que nous avons conquises tant que la sécurité à long terme ne sera pas garantie. Il a ordonné aux forces présentes au nord d'Israël de se tenir prêtes à reprendre immédiatement les combats.
Tzahal presse justement le pouvoir politique d'autoriser la destruction de tunnels du Hezbollah situé dans le massif d'Ali Taher dans le sud du Liban, selon I24 News.
Une approbation politique qui ouvrirait la voie à une reprise à grande échelle des opérations contre le Hezbollah. D'importantes quantités d'explosifs avaient déjà été introduites dans ces infrastructures souterraines il y a 3 semaines. L'opération avait été suspendue à la suite d'une demande directe du président américain. L'armée souhaite les faire sauter dès que possible. La destruction des tunnels constituerait une réponse très forte face à l'attaque de drones qui a eu lieu hier mais n'a fait aucun blessé. Selon l'analyse israélienne, ce type d'opération ne peut pas être dissocié de la guerre en cours avec l'Iran qui fournit au Hezbollah l'argent, les instructions et les moyens nécessaires à ces actions terroristes. Les chefs de Tzahal pensent que le Hezbollah doit recevoir une réponse forte et tout cela afin d'éviter une escalade et que la dissuasion militaire doit aussi s'accompagner d'une initiative politique avec Beyrouth pour renforcer l'État libanais et favoriser le désarmement du Hezbollah. On est revenu sur ce sujet à 8h30 avec notre invité Meir Masri. Après sa rencontre avec Donald Trump à Washington, Benjamin Netanyahu a rencontré des sénateurs LAPAC et des dirigeants évangéliques pour consolider le soutien à Israël aux États-Unis.
Le Hamas envisagerait de déposer les armes et de transférer la gouvernance de la bande de Gaza à une force internationale de stabilisation.
Oui, même si Israël n'y croit pas trop, il aurait été informé du contenu des négociations. Ils estiment que cette disposition apparente du Hamas à avancer ne traduit pas une évolution idéologique, résulte simplement de fortes pressions diplomatiques exercées par les médiateurs. Des discussions intensives se déroulent actuellement au Caire en présence d'une délégation de haut niveau du groupe terroriste. Les négociations sont menées sous l'égide des services de renseignement égyptiens avec la participation du Qatar et de la Turquie. C'est Channel 13, la chaîne israélienne, qui rapporte cela. L'une des options étudiées prévoit que le Hamas remette ses armes à une tierce partie qui ne serait pas l'autorité palestinienne. Aucune précision n'a été donnée sur l'identité de cet éventuel intermédiaire. L'administration Trump fait pression pour accélérer les négociations et espérerait conclure ce processus d'ici demain, à condition qu'aucun événement sécuritaire majeur ne vienne perturber les discussions.
Et Tzahal a annoncé avoir éliminé Ahmad Hisham Mahmoud Lou, présenté comme le dernier commandant d'une cellule de tireurs d'élite du bataillon de Nusayrat du Hamas.
Le terroriste a été tué lundi lors d'une frappe menée dans le sud de la bande de Gaza. Selon l'armée israélienne, son élimination s'inscrit dans une série d'opérations visant les commandants des cellules de tireurs d'élite de ce bataillon. Il serait donc le dernier des tireurs d'élite du Hamas à avoir été éliminé par Tzahal.
Un responsable houthi dément tout projet de péage dans le détroit de Bab el-Mandeb.
Il a assuré que le mouvement terroriste yéménite n'avait aucune intention de taxer le trafic maritime dans cette zone, alors que Reuters avait indiqué hier, en s'appuyant sur 2 sources proches du mouvement, que les Houthis étudiaient la possibilité d'imposer des droits de passage aux navires qui empruntent le détroit de Bab el-Mandeb. Le mouvement rebelle yéménite affirme que ses opérations en mer Rouge restent exclusivement dirigées contre les intérêts saoudiens et menace d'intensifier ses actions tant que le blocus du Yémen ne sera pas levé. C'est en partie pour ça qu'on vous pose comme question du jour pour demain. Faudrait-il créer une coalition internationale pour protéger la navigation au Moyen-Orient ?
Les autorités israéliennes ont saisi des milliers d'objets volés lors d'une perquisition au domicile d'un trafiquant d'antiquités en Judée-Samarie. Parmi les objets saisis figuraient environ 400 pièces de monnaie ancienne, des fragments de poterie, plusieurs pointes de flèches, un poignard antique ainsi que de nombreux sceaux et bagues, tous datant de l'époque perse, hellénistique, asmonéenne et byzantine. Des détecteurs de métaux et du matériel de fouille ont également été saisis lors de cette descente. Plusieurs tentatives de trafic d'antiquités ont été déjouées au cours des derniers mois en Israël, notamment l'arrestation en mars dernier d'un médecin qui tentait de faire passer clandestinement des dizaines de pièces de monnaie rare datant d'environ 2000 ans par le poste de contrôle de Rizma entre la Judée-Samarie et Jérusalem. Près de 3 ans après le massacre du 7 octobre, la communauté Nova lancera une nouvelle série d'événements musicaux mêlant mémoire, lien et reconstruction. Le premier événement aura lieu le 10 septembre 2026 au complexe Tox à Rishon LeZion à l'occasion du lancement de la série Nova Live Concert. Le projet fait suite au concert We Will Dance Again organisé au parc Ayarkon qui avait rassemblé des dizaines de milliers de personnes. La nouvelle série réunira sur une même scène musique électronique, trance, rock et artistes de la scène israélienne grand public à travers des collaborations inédites entre chanteurs, groupes et DJ. Selon les organisateurs, l'objectif est de poursuivre le processus de reconstruction de la communauté Nova grâce à la musique. Pour la communauté Nova, la musique est bien plus qu'un divertissement, c'est un espace de mémoire, de connexion, de résilience et de guérison. C'est ce qu'ont déclaré les organisateurs. Parmi les participants, Omri Sassi, l'un des fondateurs de la tribu Nova, est le DJ qui jouait lors de la fête le matin du 7 octobre aux côtés d'autres artistes.
Aux États-Unis, l'homme qui a percuté à plusieurs reprises le siège mondial du mouvement Chabad avec sa voiture a été condamné à 6 mois de prison, une peine déjà purgée.
Dan Sohail, 36 ans, a plaidé coupable en mai d'avoir endommagé un bien religieux. En janvier, Sohail avait foncé sur une voiture dans ce lieu de culte vénéré, provoquant une vive inquiétude. Il avait initialement été inculpé de crime de haine, mais avait ensuite déclaré aux enquêteurs qu'il cherchait à renouer avec son héritage juif. L'enquête a révélé qu'il avait pris contact avec des associations juives avant l'incident et qu'il souffrait de troubles mentaux. Le juge chargé de l'affaire a estimé que Dan Sohail avait besoin d'un traitement psychiatrique et qu'il n'avait manifesté aucune haine envers les juifs. Dan Sohail est condamné à purger une peine qu'il a déjà effectuée. Il est incarcéré depuis 6 mois et sera donc libéré la semaine prochaine.
L'Allemagne et son chancelier feront pas de sanctions générales contre Israël. C'est Frédéric Merz qui l'a réaffirmé cette semaine.
Oui, et ce malgré ses réserves concernant la politique du gouvernement israélien en Judée-Samarie. Lors d'une conférence de presse à Dublin aux côtés du Premier ministre irlandais Michael Martin, le dirigeant allemand a exposé sa position sur les éventuelles mesures européennes visant l'État hébreu. Nous observons avec une grande inquiétude les activités du gouvernement israélien concernant les implantations en Judée-Samarie, c'est ce qu'a déclaré Friedrich Merz, précisant avoir fait part de ses préoccupations à plusieurs reprises à Benjamin Netanyahou, notamment lors d'entretiens privés. Mais nous ne pensons pas que des sanctions générales contre Israël constituent la bonne approche, a-t-il ajouté.
L'économie belge n'a enregistré aucune croissance au deuxième trimestre. C'est une première depuis le Covid.
L'économie belge a enregistré une croissance nulle au deuxième trimestre de cette année par rapport au premier et a donc stagné. C'est ce qu'il ressort d'une estimation flash de la Banque Nationale publiée hier. Ce n'était plus arrivé depuis la crise du Covid en 2020. Par rapport au trimestre précédent, l'industrie et la construction ont enregistré une contraction. Le secteur des services a en revanche légèrement progressé. Globalement, la croissance a atteint 0%. La stagnation n'est pas une surprise. La Banque Nationale avait déjà mis en garde à ce sujet. Par rapport au deuxième trimestre 2025, on enregistre en revanche une croissance de 0,5%. C'est la première fois depuis le deuxième trimestre 2020 et la crise du Covid que l'économie belge n'enregistre aucune croissance. Un petit rappel historique à présent, le 30 juillet 1492 fut la date à laquelle les rois catholiques ont expulsé les juifs d'Espagne.
Nous avons décidé d'ordonner à tous les juifs, hommes et femmes, de quitter nos royaumes et de ne jamais y retourner. À l'exception de ceux qui accepteront d'être baptisés, tous les autres devront quitter nos territoires à la date du 31 juillet 1492 et ne plus rentrer sous peine de mort et de confiscation de leurs biens. Lorsque ce funeste décret a été promulgué, les juifs vivaient en Espagne depuis au moins 1400 ans. La Fédération des communautés juives d'Espagne se souvient aujourd'hui et rappelle justement les autorités espagnoles à agir fermement contre l'antisémitisme actuel qui, selon elle, n'est pas seulement un problème pour les juifs, mais pour la démocratie espagnole tout entière.
Et on finit sur un mot à propos des températures. Le service météorologique israélien a émis une alerte en prévision d'une importante vague de chaleur qui devrait toucher le pays dans le courant de la semaine.
Les températures devraient commencer à grimper dès aujourd'hui et la vague de chaleur se prolonger jusqu'au milieu de la semaine prochaine. Le pic est attendu entre demain et dimanche. période durant laquelle Israël devrait connaître les journées les plus chaudes de son été jusqu'à présent. Et la chaleur touche aussi la Belgique. Un nouveau record journalier de température a été battu à Uccle hier.
Avec une température de 34,2 degrés enregistrée à Uccle, le record journalier de 1911, soit 33,5 degrés, a été battu. C'est ce qu'a annoncé le météorologue David Dehonneau hier après-midi sur X. Il fallait attendre hier soir pour connaître la température maximale définitive, mais nous n'avons pas encore l'information.